2001. 2001. Qu'est-ce que ça vous évoque? Par exemple? Changement de millénaire? Quoi d'autre? L'euro? Je sais plus. 2001. Il y a eu, effectivement, c'est ce qui marque. Le manifeste agile, accessoirement. Du coup, effectivement, passage dans un nouveau monde. 2001, c'est mes 20 ans. Ça, et 2001, ah bah. Bah 2001, c'est la sortie du premier album des Strokes, quand même. Ouais. Dis donc, je sais que tu savais. T'attendais de voir. Je voulais voir s'il y avait des gens qui s'y connaissaient, qui connaissaient un petit peu dans la salle. Les Strokes. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire, Strokes, en anglais? Exactement. Les Strokes, c'est une caresse. Donc, je vous rassure, vous êtes au bon endroit. On va parler effectivement des strokes. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel lien on peut faire entre ce sujet et l'agilité? Bon, le côté fait son festival, on a commencé un petit peu comme ça. Donc moi, Maxime Guyot, donc je baigne dans l'agilité depuis un certain nombre d'années en tant que Scrum Master, facilitateur, coach agile, maintenant voilà, coach aussi, coach d'équipe tout court et du coup, j'ai envie de voilà, vous partager quelques découvertes que je trouve intéressantes pour vous et pour les équipes. On va commencer aussi par remercier tous les sponsors. On ne le dira jamais assez. J'ai fait partie, comme Julien et d'autres, j'imagine, de l'organisation d'événements. Vous avez la chance d'avoir un super lieu, d'avoir tout un prix défiant toute concurrence. Et ça, ce serait vraiment pas possible sans tous ces sponsors. Donc voilà, même si vous avez déjà vu les slides plusieurs fois, je vous invite à les regarder. Mon plus grand respect pour eux, pour faire vivre cet événement, déjà dans sa 12e édition. Alors, pour illustrer un petit peu tout ça, je vais vous raconter trois petites scènes. Imaginez. Vous sortez de chez vous, vous avez une course à faire, vous croisez votre voisine. Bonjour Madame Machin, bonjour Monsieur Machin, comment allez-vous? La famille, les enfants, tout ça? Oui, très bien, merci. Bonne journée à vous. Donc voilà, quelque chose d'assez classique, un échange de banalités, mais au final, quelque chose dont on a tous fondamentalement besoin, des strokes. On va les appeler les signes de reconnaissance. En analyse transactionnelle, vous venez d'échanger, du coup, vous étiez en interaction, donc vous avez échangé ces strokes. C'est le point de départ dans notre monde un peu civilisé avant tout autre type d'interaction. Deuxième scène, vous continuez, vous enchaînez, vous croisez Monsieur Truc. Bonjour Monsieur Truc. Et là, rien. Détour d'un regard, détour même du chemin. Vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Enfin, cela illustre le manque de strokes. Vous n'avez pas eu, en fait, ce à quoi vous attendiez. Vous avez amorcé un rituel. Ce rituel du bonjour, normalement, vous garantit un minimum de strokes. Un minimum de signes de reconnaissance, à savoir un bonjour en retour, et là vous ne l'avez pas eu, qui peut vous amener à gamberger, à vous poser un certain nombre de questions. Troisième situation, vous enchaînez, vous arrivez au marchand. Bonjour monsieur, comment ça va? La famille, les enfants, prendre en chaîne, la météo, le football, un certain nombre de sujets qui, on va dire, un peu sécurisants, qui vont vous accorder votre dose de strokes qui vous manquait peut-être par rapport l'interaction précédente que vous avez eue. Et au bout d'un moment, c'est presque un peu trop. Vous cherchez un moyen de vous éclipser. Le marchand est très bavard. Il a l'impression que vous avez, qu'il a tout son temps pour vous. Et c'est très bien, mais vous allez vous éclipser. Vous allez trouver un prétexte d'une façon ou d'une autre pour vous éclipser. Parce que finalement, vous avez eu presque une surdose. Les strokes, les signes de reconnaissance, ça va vraiment dépendre de la situation, de la personne, de votre besoin. Et là, pour le coup, c'est une question de dosage également. Donc, d'où ça nous vient, tout ça ? Le premier, donc deux grandes sources d'inspiration pour moi et pour ce sujet aujourd'hui. Donc, le premier, Eric Berne, le papa de l'analyse transactionnelle, dans les années 50 aux États-Unis, années 70 en France. L'analyse transactionnelle, c'est beaucoup de choses en fait. C'est à la fois une théorie de la personnalité, on va en parler un petit peu aujourd'hui, une théorie de la motivation et de la communication, là ça va être un peu plus le sujet encore d'aujourd'hui, en lien avec le manifeste agile, les interactions, la communication, et c'est également un système complet de psychothérapie. On n'ira pas sur ce registre-là, même si vous verrez que potentiellement, ça peut nous y mener. Donc Eric Berne, un certain nombre d'ouvrages, moi des ouvrages que je trouve intéressants pour illustrer ce qu'on vient de dire. Que faites-vous ? Que dites-vous ? Après avoir dit bonjour. Ou les jeux, moi je suis un grand joueur, tout type de jeux, même les jeux de main, jeux de vilain, que dire, des jeux d'influence, des jeux de pouvoir, des jeux psychologiques, on va en parler un petit peu. L'analyse transactionnelle axe énormément de... passe beaucoup de temps, enfin Eric Berne a beaucoup étudié ces fameux jeux psychologiques. Les jeux psychologiques que vous vivez forcément tous les jours sans le savoir, avec potentiellement tout le monde, enfin de préférence quand même, vous avez vos partenaires de jeux privilégiés. Donc on va y revenir. Et surtout, un grand monsieur, un grand merci à ce monsieur à côté, franco-américain, Claude Steiner, à qui nous devons cet ouvrage, l'ouvrage en dessous en tout cas, je pense que c'est possible que vous l'ayez vu, un conte à plusieurs niveaux de lecture, à la fois pour les enfants, mais aussi pour les grands, sur lequel voilà, je vais largement m'inspirer aujourd'hui, notamment pour les illustrations. Et Claude Steiner, c'est donc un des héritiers d'Eric Berne, il y en a eu beaucoup, et lui, il a développé au niveau de l'analyse transactionnelle la notion de script, la notion de scénario d'échec, comment je m'y prends tous les jours pour finalement rentrer dans un cycle pour, malgré moi, de manière inconsciente, pour me mettre en difficulté. Et c'est là qu'au niveau de la psychothérapie, un psychothérapeute peut travailler justement sur son scénario pour essayer justement d'en sortir. Mais ce ne sera pas le sujet d'aujourd'hui, je suis désolé. On va plus s'intéresser à l'ouvrage du dessous. Et donc voilà, j'ai parlé de théorie de la motivation, théorie de la communication. Pour moi, derrière la motivation, on fait quelque chose parce qu'on va répondre à un besoin. Qu'est-ce que vous connaissez comme grille de lecture qui va parler de besoin ? Quand je vous dis besoin, un modèle que vous connaissez peut-être avec une certaine forme. Voilà, par exemple, la pyramide de Maslow. Voilà, exactement. C'est ce qui vient généralement en premier. Je vais la remontrer. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette pyramide ? Qu'il y a une forme de hiérarchie, selon Maslow, entre les besoins, et qu'avant de combler, par exemple, les besoins d'appartenance, on a besoin de combler nos besoins de sécurité, et qu'avant de combler nos besoins de sécurité, on a besoin de combler les besoins de base, des besoins physiologiques, manger, dormir, respirer. Et le besoin de reconnaissance, le besoin d'estime, selon Maslow, arriverait après, une fois qu'on a fait on va dire les étapes, même s'il est là, il est moins important que les autres. Ça peut effectivement tout à fait faire sens. Pour autant, pour Eric Berne, le besoin de reconnaissance, il serait tout également à la base de la pyramide. On en a vraiment besoin. Et je vais vous illustrer justement les trois besoins qui sont au cœur de l'analyse transactionnelle. À commencer par le besoin c'est de stimulation. Donc, enfant. Si nous avons eu la chance d'avoir une famille aimante, accueillante, nous avons été stimulés par des caresses, par du confort, on va dire. Nous avons été cajolés, donc ce besoin, En grandissant, même si nous n'avons plus le contact direct avec nos parents, toutes ces caresses, nous avons encore besoin d'être stimulés. Et à défaut de caresses réelles, on va être en recherche de pseudo-caresses, les strokes, les signes de reconnaissance. Je vous ai évoqué, Eric Berne parle des trois fins. Parfois, vous verrez aussi les trois soifs. Nous avons un véritable appétit dont on a besoin d'être comblé. On observe par exemple chez des enfants qui sont en très bonne santé, élevés dans les pouponnières, bien nourris, un manque de stimulation qui les amène à développer des troubles affectifs, des troubles physiques. On a aussi observé malheureusement, en retrouvant certains enfants laissés à l'abandon, par exemple dans la Roumanie de Ceaușescu, de vrais problèmes en termes de stimulation. Et on observe biologiquement un flétrissement de la moelle épinière. Donc, une façon d'illustrer à quel point ce besoin de stimulation est vital. Et les strokes viennent à la fois toucher le besoin de stimulation et le besoin de reconnaissance. Parmi les trois besoins que je vous ai évoqués, je vais les remontrer, je vais les transformer. Nous avons ces besoins, donc on peut les transformer d'une certaine façon en motivation. Le besoin de contact, le besoin qu'il soit physique, mental, un besoin de stimulation, un besoin de reconnaissance, qui va vraiment être le cœur de ce qu'on va évoquer aujourd'hui, et le besoin de structure, je l'évoquerai à la fin, notamment quand j'arriverai au niveau des jeux. Le besoin de reconnaissance, donc je vais vous donner par exemple une autre petite histoire. Ça, c'était moi il y a quelques temps, ou ça peut encore m'arriver. Le sentiment de donner, je pense être quelqu'un qui donne beaucoup de signes de reconnaissance, du feedback. Quand j'apprécie quelque chose, je le dis immédiatement. Quand j'apprécie le moindre petit geste, quand j'apprécie une personne, ou quand je note une qualité chez quelqu'un, j'ai le sentiment de beaucoup donner, où j'ai eu ce sentiment à une époque, et de me dire qu'il y a une forme de déséquilibre, c'est bizarre. J'ai l'impression de beaucoup donner, mais que je ne reçois pas autant. Et que du coup, mon équilibre interne était un petit peu perturbé, ce qui m'amenait à interpréter. Bon, du coup, si j'en reçois pas, c'est que je ne fais pas les choses bien comme il faudrait, à me poser des questions ou peut-être à juger. Tiens, c'est bizarre, moi je donne, les autres ne donnent pas. Les autres, ils sont un peu comme ceci, ils sont un peu comme cela. Et après, je me suis dit peut-être qu'en fait, j'en reçois. Hop là, c'est pas tout à fait dans l'ordre. Si, c'est ça. Peut-être que j'en reçois, mais en fait, je ne sais pas bien les écouter. Ou peut-être que ceux que je reçois ne répondent pas parfaitement à mes besoins. Et au final, si j'en ai besoin, qu'est-ce qui m'empêche, en fait, d'aller les demander? Est-ce que je sais demander un feedback? Est-ce que c'est facile de demander un feedback, au final? Je pense que jusqu'à un point, j'avais un peu peur, en fait, peur de ce qu'on allait me dire. De ce que j'allais recevoir, en fait, est-ce que j'avais vraiment envie de l'entendre, et du coup, je pouvais m'imaginer un certain nombre de choses. Et pour autant, quand je franchissais, là, je sens que j'ai besoin, j'y vais, je reçois le feedback, et généralement, j'étais rassuré, en fait, tout va bien, les gens m'apprécient, mais j'ai toujours cette petite voix, vu que je l'ai demandé le feedback, est-ce qu'il est authentique? Est-ce que c'est sincère? C'est moi qui l'ai demandé, et pourquoi la personne ne me l'a pas dit spontanément? Donc toujours besoin de se rassurer. Et en fait, avec le temps, j'ai fait cette découverte qu'on retrouve justement dans l'ouvrage de Klaus Steiner autour de la notion d'économie de signes de reconnaissance. Donc cette économie, il faut l'avoir un peu comme une économie de marché. Comme quoi les strokes, bon là j'ai mis les SDR, donc vous verrez tantôt l'un, tantôt l'autre, donc les signes de reconnaissance, nous serions conditionnés depuis l'enfance, depuis nos parents, sur l'idée que les signes de reconnaissance seraient en quantité limitée. Et ceci en fait par nos parents qui, de manière inconsciente, malgré tout l'amour qu'ils ont pour nous, détiendraient une forme de pouvoir sur nous. Ils vont nous donner des signes de reconnaissance en fonction, nous donner de l'amour en fonction de ce qu'ils attendent de nous, On a bien agi, bon point, signe de reconnaissance. On n'a pas très bien agi selon leurs critères. Et ces signes de reconnaissance, ils sont limités. Et ce sont les détenteurs. Et du coup, ils vont prendre d'une certaine façon le pouvoir sur les enfants sans forcément le vouloir. Et en grandissant, même si on a quitté nos parents, on va être conditionné. Et on va avoir de nouveaux pourvoyeurs de signes de reconnaissance que vont être à l'école, les bons, les mauvais points, les notes, bonnes notes, tu as bien travaillé, continue comme ça. Les mauvais points, tu n'as pas bien travaillé, tu ne t'es pas conforté au résultat que j'attendais. Et du coup, je reçois d'autres signes de reconnaissance qui ne sont pas positifs, mais négatifs, mais du coup qui peuvent m'amener à orienter mon comportement. Et puis ensuite, en entreprise, pourvoyeur de signes de reconnaissance, les managers, les coachs. Et en fait, ce que Claude Steiner nous dit, c'est que nous sommes conditionnés à suivre inconsciemment les cinq règles que je voici. Je vous invite à lire intérieurement. Et donc, en fait, on se serait, depuis l'enfance, construit, conditionné autour de certaines croyances, des filtres qui vont nous faire percevoir la réalité d'une certaine façon et agir de cette façon. Par exemple, sur la première règle, ne donne pas les signes de reconnaissance que tu as envie de donner. Derrière, ça va cacher quelque chose. Si tu lui en donnes trop, il va prendre la grosse tête, quand même. Non, mais il faut y aller avec parcimonie quand on donne des signes de reconnaissance. Ne les demande pas, de toute façon. Ce que tu demandes n'ont pas de valeur. Comme je vous ai évoqué tout à l'heure, si ça ne vient pas spontanément, si on vient les chercher, forcément, ça a beaucoup moins de valeur. De la même façon, on me donne des signes de reconnaissance. Oui, mais tu as dit ça parce que tu veux être gentil avec moi, mais tu ne le crois pas vraiment, au fond. De la même façon, on me dit quelque chose, je ne suis pas aligné avec ça, mais on m'a dit, il faut accepter tout ce qu'on me dit, on m'a conditionné. Il te l'a dit, c'est important, et du coup, je suis incapable. Quelqu'un me fait un reproche. Si j'ai pas suffisamment de recul, parfois, je peux lui dire, ok, ben, c'est que c'est la vérité, c'est sa vérité, donc c'est la vérité, donc ça peut me perturber fortement. Et de la même façon, ben, se donner des signes de reconnaissance, ben, c'est un petit peu se vanter, quoi. D'une certaine façon, ben, c'est pas très bien de se vanter, il faut rester humble. Et donc, Claude Steiner, ben, nous propose autre chose pour gagner plus d'autonomie. L'analyse transactionnelle, c'est très axé sur la retourner vers sa propre autonomie, dans l'ici et maintenant, dans le présent, pour retrouver plus d'autonomie, plus de spontanéité, de rejeter ce conditionnement, même si c'est loin d'être simple. C'est très bien illustré, en tout cas, encore une fois, dans cet ouvrage, et de se donner de nouvelles règles, associées à de nouvelles croyances. Qui sont par exemple l'idée que je peux donner des signes de reconnaissance autant comme autant. Ils sont inépuisables. Le stock est inépuisable, donc rien ne m'empêche d'en donner autant que je veux, à qui je veux. Je suis également totalement libre de demander des signes de reconnaissance, d'accepter les signes de reconnaissance. Je suis tout à fait libre aussi de refuser un signe de reconnaissance qui ne me convient pas. J'entends ta perception de la réalité, j'entends ton point de vue. Je ne suis pas aligné et il ne me convient pas. J'ai tout à fait le droit de le mettre de côté, de me protéger également. Et j'ai tout à fait le droit aussi de me faire plaisir en me disant là, j'ai bien travaillé, je suis content. L'autosatisfaction, ce n'est pas forcément de la vanité. On a aussi le droit et je vous encourage à vous donner des signes de reconnaissance à vous-même assez régulièrement. Donc voilà un petit peu l'idée de fond qu'on a derrière. Sur les signes de reconnaissance, dans ce que je vous ai illustré jusque-là, ça doit vous parler en tout cas pour certains. On a évoqué donc les signes de reconnaissance, ça peut être bonjour, ça peut être une phrase, ça peut être quelque chose, ça peut être un remerciement, un compliment, mais ça peut être aussi du non-verbal, un sourire, un geste. Et ça peut être également quelque chose dit positif, donc vécu comme positivement quand on le reçoit. Un sourire, généralement, on le vit positivement, un froncement de sourcils, on peut peut-être s'interroger. Mais même les signes de reconnaissance peuvent être aussi négatifs. Et en analyse transactionnelle, selon Claude Steiner, On pourrait imaginer qu'on recherche que des signes de reconnaissance positifs, mais en fait, le pire, c'est l'indifférence. Donc, en fait, tout plutôt que rien. Je préfère agir et me comporter de manière consciente ou inconsciente pour recevoir quels que soient les signes de reconnaissance, même s'ils sont négatifs. Une bonne engueulade m'envoie plein de signes de reconnaissance. Malgré moi, j'existe. La personne me regarde, elle est là, on est en pleine interaction. Donc les signes de reconnaissance, c'est vraiment une forme de reconnaissance que de mon existence. Au contraire de vous êtes dans la rue, vous voyez par exemple un SDF et vous détournez le regard immédiatement, vous le privez totalement de signes de reconnaissance sur son existence. Donc imaginez toute la journée comme ça, qu'est-ce que ça peut signifier par exemple pour lui. Les signes de reconnaissance, on peut également les qualifier de conditionnels et d'inconditionnels. Je te reconnais sous condition, je te fais un compliment ou je te fais un feedback. Quand tu fais ceci, j'apprécie, quand tu fais cela, j'apprécie moins. Donner une forme de conditionnalité, tandis que l'inconditionnel, c'est dans l'absolu. Je t'aime, je te déteste, tu es nul, à manier en connaissance de cause. Et du coup, on peut résumer un petit peu ça dans ce tableau, donner quelques exemples. Et les personnes qui sont coutumiers de l'art du feedback doivent connaître, ou les coachs qui font également, qui travaillent avec des techniques de renforcement, savent que appuyer au bon endroit et qu'un signe de reconnaissance qui n'est pas congruent, qui n'est pas honnête, qu'on ne ressent pas, ça va être perçu. Et du coup, on va appeler ça des signes de reconnaissance d'une certaine façon contrefaits, faux, ou parfois passés de la pommade. Et donc, les signes de reconnaissance nous conditionnent pour orienter tous nos comportements en général. Pour obtenir certains signes de reconnaissance, je vais agir plus ou moins consciemment d'une façon ou d'une autre. Donc là, maintenant, un petit temps pour vous. J'ai beaucoup échangé donc, par rapport à tout ce que je viens de vous partager. J'aimerais que vous vous posiez quelques instants et vous dire, voilà, vous pouvez vous faire un cadeau. Qu'est-ce que vous aimeriez, vous ? Deux signes de reconnaissance que vous n'avez pas encore reçus, que vous aimeriez recevoir aujourd'hui, dans la semaine. Je vous laisse prendre le temps de vous imprégner de cette question. Donc maintenant, je vous invite également à réfléchir à quelle fréquence vous donnez des signes de reconnaissance positifs, négatif. Est-ce que c'est souvent, c'est tous les jours, à qui, quand, dans quelles circonstances, un petit peu, avec le recul. Et enfin, réfléchissez à la dernière fois que vous avez demandé un signe de reconnaissance sous forme de feedback, par exemple, ou pour ce qui est plus connu. Et la dernière fois que vous avez refusé un signe de reconnaissance, quelqu'un qui vous a dit quelque chose qui vous a fait de la peine et vous avez réussi, ça ne vous a même pas atteint en fait d'une certaine façon parce que vous avez réussi à refuser ce signe de reconnaissance. Donc, cet exercice de à quelle fréquence on peut servir justement dans une grille de lecture de Jim McKenna à vous auto-évaluer de manière intuitive sur votre profil de strokes, votre profil vis-à-vis des signes de reconnaissance. Donc les signes de reconnaissance positifs ou négatifs, sur ces critères donner, accepter, demander, refuser. Je vous donne un exemple. Ici, cette personne va donner rarement des signes de reconnaissance négatifs. En tout cas, c'est son sentiment. Et elle a le sentiment d'en donner beaucoup de positifs. Et ce que Jim McKenna partage, c'est que c'est généralement inversement proportionnel. Quelqu'un qui a tendance a accepté peu de signes de reconnaissance positifs, parce qu'on lui fait des compliments, il les refuse systématiquement, il va être très enclin à en recevoir beaucoup de négatifs. Parce que, encore une fois, tout plutôt que rien, et on a besoin de cet équilibre. Et en fait, en faisant cette évaluation intuitive sur vous, vous pouvez vous poser la question, est-ce que je suis OK avec ça, avec mon profil? Est-ce que ça me convient? Je suis à l'aise? Auquel cas, c'est parfait. Et si vous ne sentez pas à l'aise, vous pouvez vous dire, bon, quelle action je pourrais faire pour faire évoluer? Et le conseil, c'est de commencer par d'abord donner plus avant de retirer. C'est toujours plus facile quand il y a un changement de savoir par quoi je vais remplacer plutôt que de changer pour du vide, pour rien. Ça peut être assez effrayant. Donc voilà, on a parlé fréquence, on a parlé quantité, je voudrais également parler qualité. Parce qu'au final, il y a cette règle, à chacun ses SDR, ses signes de reconnaissance. Ce qui vaut pour quelqu'un ne vaut pas pour tout le monde. Moi, j'ai besoin d'être reconnu. Quand je vous ai dit, on me donnait des signes de reconnaissance, mais je ne les acceptais pas ou ils ne me nourrissaient pas. Parce qu'au final, je me connais et les signes de reconnaissance qui vont me nourrir le plus, ce sont des signes de reconnaissance, par exemple, selon mon profil, sur mes qualités de structure, mes qualités d'organisation, mes qualités, mes connaissances, ou également mon côté aimable. Et pour autant, ce sont des signes de reconnaissance qui seront un peu moins forts chez certaines personnes, parce qu'eux, ils vont aller chercher un petit peu d'autres choses. Ils vont aller chercher, par exemple, la reconnaissance sur leur physique, sur leur force, sur d'autres qualités qui sont importantes pour elles. Et du coup, quand ils vont recevoir certains signes de reconnaissance, ils ne vont pas forcément les entendre. C'est également important, l'émetteur des signes de reconnaissance, c'est super important également. Que telle personne ou telle personne vous envoie un signe de reconnaissance, ça n'aura pas la même valeur. Un être cher, un proche, votre manager, par rapport à un inconnu, ça n'aura pas la même valeur. Et de la même façon, je vous ai dit, quand vous recevez un signe de reconnaissance, parfois vous pouvez être amené à le refuser. Mais si vous le recevez plusieurs fois de plusieurs personnes différentes, au bout d'un moment, bah, peut-être que ça doit être vrai, en fait. On arrive plus facilement à se reconditionner, à sortir de ce filtre et pour accepter les signes de reconnaissance qu'on nous donne. Et dernier point, attention donc aux contrefaçons. Un signe de reconnaissance qui ne vous semble pas congruent ou une forme de... Si vous savez, parfois on fait des feedbacks en sandwich. Un point positif, ah, j'adore quand tu fais ça. Par contre, quand tu fais ça, c'est pas top. Mais par contre, quand tu fais ça, c'est génial. Positif, on va glisser le message de fond, c'est le message négatif, mais on va le cacher au milieu de deux messages positifs. Et ça, en général, on le voit, on le sent. Ce qu'on peut appeler les strokes, les signes de reconnaissance contrefaits ou passer de la pommade, qui peut s'apparenter à de la manipulation. Dans les héritiers de l'analyse transactionnelle, nous avons également Tebby Keller, à qui on doit le modèle process communication, qui a eu beaucoup de et qui continue d'avoir beaucoup de succès, notamment en entreprise. Vous avez peut-être entendu parler, en tout cas, il a été rendu célèbre pour avoir été travaillé avec la NASA pour constituer des équipes équilibrées. Quand on envoie dans l'espace, on envoie un petit collectif, on a envie généralement que ça se passe bien. Et Tebby Keller a fait énormément de travaux de recherche autour des comportements humains, et qu'on pourrait résumer un petit peu ses travaux comme « Dis-moi comment tu stresses, et je te dirai qui tu es. » Et nous avons tous des façons de stresser différentes, tous. Disons qu'il a identifié quand même 6 grandes familles, et on est tous composés de ces six types de personnalités, si je puis dire, mais on n'est jamais l'un ou jamais que l'un ou que l'autre. Par contre, on a tous différents étages qui sont ordonnés de différentes façons. Dans les précédentes versions analyseurs, il s'appelait Travaillomane, Imagineur s'appelait Rêveur, Énergiseur s'appelait... Énergiseur n'a pas changé. Pouf, pouf. Si Énergiseur s'appelait Rebelle. Et ce qui est super intéressant, voilà, avec ce modèle-là, vous pouvez aussi adapter votre communication en fonction de ce que vous percevez de la personne. Vous allez plus facilement entrer en communication avec elle. Et donc, nous ne sommes pas qu'un seul de ces étages, mais par contre, nous avons une question, potentiellement une question existentielle qui va nous amener dans nos scénarios d'échec. Moi, si je vous dis, par exemple, qu'avant cette conférence, je l'avais déjà donnée en distanciel, mais je voulais la refaire en présentiel. J'avais du temps, j'ai pris beaucoup de temps, en fait. Je me suis toujours posé la question, est-ce que je suis prêt, etc. Puis comme j'avais du temps, bah, je pouvais en faire toujours plus vouloir en rajouter. À votre avis, ça correspond à quel étage se poser ce genre de questions. Côté un petit peu perfectionniste, à vouloir ultra préparer, plutôt en haut, sans que vous avez certains indicateurs visuels. Donc voilà, effectivement, c'était ma base. Maintenant, dans le modèle, il y a la notion de base, la notion de phase. Et derrière, j'ai des questions existentielles hyper importantes, comme le suis-je aimable, qui serait mon deuxième étage, est-ce que je suis. Et suis-je. Toutes ces questions, en fait, qui vont nous amener à aller rechercher, en tout cas, essayer de nous nourrir par rapport sur certains champs plus que par rapport à d'autres. Et donc voilà, certaines questions existentielles. Vous avez d'autres questions existentielles. Un autre modèle que je trouve intéressant de l'élément humain. J'ai beaucoup parlé d'individuel, mais également en collectif. Comment vous allez vous comporter vis-à-vis du collectif pour vous sentir intégré dans le groupe? Et comment vous allez intégrer quelqu'un dans ce groupe? Donc avec cette notion d'inclusion, quelle est ma valeur au sein de ce groupe? Comment je me sens inclus? Comment je me sens accueilli au sein de ce groupe? La notion d'influence et de contrôle, là on va également rentrer, on a parlé des jeux, les jeux d'influence et de pouvoir, comment je me sens dans ce groupe-là? Est-ce que je me sens influent? Est-ce que je me sens à la hauteur? Est-ce que je suis capable de prendre des décisions? Est-ce que je peux être un leader? Qui est le leader? Je vais challenger le leader si je sens que ce n'est pas un bon leader. Des questions d'ouverture. Vous avez peut-être entendu parler de la notion de sécurité psychologique. Dans quelle mesure on peut être authentique dans cette équipe? Dans quelle mesure je suis accueillant? Dans quelle mesure le collectif est accueillant? Dans quelle mesure je suis authentique vis-à-vis des autres? Donc, autant de questions qui vont nous amener de manière inconsciente à aller chercher certains signes de reconnaissance plutôt que d'autres en fonction de la situation, que ce soit en individuel ou en collectif. Donc, à nouveau, je vous laisse ces questions et vous poser. Est-ce qu'il y a parmi celles-ci des quelques questions qui vous animent en ce moment même? Et comment ça peut se traduire en termes de besoin de signes de reconnaissance? Donc voilà, à ce stade, un premier partage, quelques petits résumés, quelques petites ouvertures. On en revient encore une fois à se connaître, connais-toi toi-même. Parfois, quand on entre en communication, quand on a des conflits, en fait, on ne sait pas forcément ce qui nous arrive en termes d'émotions. Et les émotions sont des super indicateurs pour nous dire je suis en colère, après j'ai un besoin de réparation, je suis triste, j'ai un besoin de réconfort. On a notre boussole interne de nos émotions, mais parfois cette boussole elle peut être complètement déréglée. Et si vous connaissez un petit peu votre profil, si vous connaissez par exemple qu'est-ce qui vous met en stress? Ce sera plus facile pour vous d'orienter vos comportements de manière plus ou moins consciente pour aller chercher des signes de reconnaissance dont vous avez besoin pour sortir de cette zone, pour savoir ce qui vous motive au quotidien. Ce qui motive une personne n'est pas la même chose nécessairement que la même chose qu'une autre personne. Ces questions existentielles qui peuvent vous animer, donc c'est quelque chose de très personnel et très intime. Mais en tout cas, c'est une grille que j'ai trouvée intéressante à vous partager. Et puis, la culture du feedback. Quand on pense à, je vous ai parlé, un des trois besoins. Les trois fins, feedback, nourrir en retour. Comment vous nourrissez, comment vous nourrissez les autres autour de vos besoins, de leurs besoins, de manière désintéressée. On n'est pas dans la manipulation. Et encore une fois, dans nos comportements, si on n'arrive pas à obtenir des signes de reconnaissance positifs, quoi qu'il arrive, on ira les chercher de manière négative. Je vais donner quelques exemples juste derrière. Et en analyse transactionnelle, il y a un concept que je trouve intéressant à vous partager sans rentrer dans le détail, c'est la notion de position de vie. La position plus plus, j'ai de la valeur, tu as de la valeur. Je ne suis pas dans une position où j'ai plus de valeur que toi, ou tu en as plus de valeur que moi. Dans développer des relations saines pour interagir, je vous invite à nous reposer
la question. Vous m'entendez?
Oui.
On va s'en passer. Donc voilà, sur les positions de vie, assez rapidement, de toute façon, voilà, rechercher, établir les relations les plus saines possibles pour prévenir les conflits avant qu'ils arrivent. Le process communication, c'est aussi une façon de s'adapter. Je me connais, je connais l'autre. Pour entrer en communication, mon but, c'est quand même que mon message soit compris. Autant que j'adapte mes mots, ma façon de faire, aux besoins, à ce que j'ai perçu en tout cas, comme étant les besoins de. Les besoins d'une personne humaine. Ça va?
C'est déchargé, je pense.
Ils sont déchargés. Ça va, pas de souci. Et pour ceux qui connaissent la CNV, la communication non violente, pour moi, on est au cœur de ça, on est au cœur des émotions. Et comment j'arrive à exprimer mon besoin? C'est pas forcément simple déjà d'exprimer son émotion, mais d'exprimer mon besoin. C'est pour ça que j'insiste aussi beaucoup là-dessus. Avoir un vocabulaire sur les émotions, c'est important, et un vocabulaire également sur les besoins, je trouve que c'est intéressant. Donc là, on arrive à ce que j'ai appelé la bonus track. Je vous disais déjà, si j'arrive jusque-là, je suis content. Avec le dernier besoin, le besoin de structure. Mais avant d'aborder le besoin de structure, vous ne m'avez pas interrompu, c'est vrai que je ne vous ai pas dit que vous pouviez m'interrompre. Mais est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu, des réactions, tout ce que vous voulez, besoin de stimulation, des strokes, qui nous amène également au besoin de reconnaissance, positif, négatif, tout type de besoin de reconnaissance. Chacun ses strokes, chacun ses propres besoins. Comment je m'adapte aussi aux besoins des autres? Est-ce que c'est clair à ce stade? L'art du feedback, ça vous parle aussi? Je vous invite fortement aujourd'hui à donner un maximum de feedback pour tous les intervenants, toutes les personnes que vous allez voir. Donc le dernier point, la dernière des trois fins, prenez une situation en groupe, il n'y a pas vraiment de structure, assez rapidement, on sent que chez certaines personnes, peut-être parfois plus que chez d'autres, on va avoir besoin d'instaurer une structure, comment on s'organise pour, c'est le bazar, je ne comprends pas, et certains profilent un petit peu plus que d'autres, dans certaines réunions, on commence, ça change beaucoup de signes de reconnaissance, qu'est-ce que tu as fait hier, qu'est-ce que la famille, tout ça, on parle, on est beaucoup dans le relationnel, on peut être beaucoup dans la stimulation, donc là, les profils plutôt énergiseurs, ils sont bien, ils sont en zone de confort, les profils harmoniseurs, ils sont aussi très bien parce qu'on est dans le lien, on est dans la création, mais on a quelques autres profils qui, quand ça traîne un petit peu, vont commencer à dire, bon là, on est là pour faire quoi dans cette réunion? Les profils type bleu, besoin de structure, je voulais rajouter le profil rouge derrière, j'ai oublié, mais le profil rouge, le promoteur, il est orienté vers l'action. Et quand il ne voit pas d'action, ça peut commencer à gratter pas mal. Donc, on a tous des besoins différents, mais les besoins des profils analyseurs et profils promoteurs, ils ont un appétit de structure qui est également très, très important. Et du coup, l'analyse transactionnelle fournit une grille de lecture autour de notre façon de structurer le temps. Et du coup, voilà, nous sommes ici pour faire quoi? Mais à vrai dire, quand on est déjà en réunion tous ensemble, on discute, on passe un bon moment, on est déjà en train de faire quelque chose. Et pour certaines personnes, faire, c'est du concret, concrètement, quel résultat, où est-ce qu'on veut aller? Et ce que nous dit l'analyse transactionnelle, c'est qu'avant d'aller vraiment dans le faire, tous ensemble quelque chose avec un objectif commun, on est tous conditionnés, habitués à réagir d'une certaine façon. Donc, quand on est quelque part, on peut être notre corps peut être ici, physiquement je suis là, mais mon esprit est ailleurs. Je suis sorti pour plein de bonnes raisons, et dans ce cadre-là, je ne suis pas dans l'échange, donc je ne peux pas recevoir ou donner des signes de reconnaissance, par contre je peux m'en donner à moi-même. C'est un petit peu ce que j'ai montré là sur cette grille-là, cette façon de structurer le temps, plus vous allez vers le bas, plus vous allez recevoir de signes de reconnaissance. Donc, quand je suis en retrait, je vais en recevoir très peu, mais ça peut correspondre tout à fait à mon besoin. On a vu parfois, tout à l'heure, le profil d'imagineur. Parfois, il a besoin de solitude, il a besoin d'être en retrait, il a besoin de se couper, et par contre, on a l'impression qu'il n'est pas là, mais intérieurement, il se passe énormément de choses. Il est dans la créativité, il est dans le retrait, mais en fait, il est quand même en train de faire quelque chose, mais il est, du point de vue des autres, il n'est plus là. Mais il en a besoin. Et ça, il faut le respecter, et vous pouvez tous exercer aussi votre droit de retrait d'une réunion. On a parlé de la loi des deux pieds. Je ne l'ai pas évoqué là, mais ce matin, Caroline en a parlé très très bien. Vous êtes quelque part, ça ne vous apporte pas de valeur. Mais vous pouvez déjà vous retirer. Vous pouvez penser à autre chose, je prends mon téléphone. Vous avez aussi le droit de sortir, d'exercer votre droit de retrait. Vous ne pouvez pas vous sentir prisonnier. Il y a beaucoup de liberté dans les transactionnaires. Le deuxième point, on l'a vu ensemble, le rituel. Le rituel, c'est quelque chose qu'on a appris dans l'enfance, qui est culturel, mais dans toutes les cultures, il y a ce rituel d'une forme de salutation, du bonjour. C'est la première étape pour entrer en communication. C'est une façon sécurisée. On sait qu'en faisant ce rituel-là, on va recevoir un petit peu de signe de reconnaissance, a priori. Bonjour, bonjour. Ah, tu suis reconnu. Bonjour, rien, problème. Donc, voilà, au niveau du rituel, après, on va rentrer dans quelque chose. On s'attend à recevoir encore un peu plus de reconnaissance. Le passe-temps. Pensez à la machine à café. La machine à café, on s'est changé. Un certain nombre de conversations sécurisées. Le foot, a priori. La météo, les enfants, la famille. Et vous allez recevoir des signes de reconnaissance positifs, mais vous pouvez aussi recevoir des signes de reconnaissance négatifs, mais de faible intensité. Et c'est encore OK. Et cette période-là, elle a aussi une utilité, le passe-temps, la machine à café. Vous êtes en observation, vous êtes en train de faire un petit peu votre casting, votre sondage, avec qui je vais pouvoir faire un peu plus. Déjà, j'ai senti avec lui, on va pouvoir faire quelque chose, avec elle ou pas, pour passer aux étapes suivantes. C'est une des grandes fonctions, de tous ces moments informels aussi au fond de vous, pour savoir le faire quoi, avec qui je vais pouvoir travailler en fait, le faire quoi aider à ce moment-là. Donc l'activité, c'est quelque chose qui va répondre à un besoin de orienter vers un but, vers un objectif, contrairement aux activités précédentes, qui peuvent être totalement sans objectif. Là, on va accomplir quelque chose, et on va obtenir des signes de reconnaissance, qu'ils soient positifs ou négatifs, après l'accomplissement de cette tâche. Je vais passer volontairement ceci pour arriver au Graal, au sommet, l'intimité. Donc l'intimité, c'est pas qu'au sens du dictionnaire, vous pouvez l'imaginer uniquement avec sa partenaire. L'intimité, c'est le summum en termes pour les signes de reconnaissance, à la fois les besoins de stimulation, les besoins de reconnaissance et les besoins de structure. Dans l'intimité, tout est fluide, tout est naturel avec la personne avec qui j'interagis. Chacun assume sa propre responsabilité. C'est quelque chose que l'on recherche tous, a priori, mais qui est finalement potentiellement assez rare. Il y a défaut d'intimité, on a besoin de signes de reconnaissance.
Allô ? Ouais, c'est bon. Malheureusement, l'intimité, voilà, c'est, je vous l'ai dit, une forme de Graal qui n'est pas forcément accessible ou pas simple, en tout cas qui peut prendre du temps. Et à défaut d'intimité, une autre façon d'obtenir un maximum de signes de reconnaissance, quels qu'ils soient, ce sont les jeux psychologiques. Donc les jeux psychologiques, c'est quelque chose d'un petit, aussi d'inconscient, qui a un caractère un petit peu malhonnête, basé sur des sous-entendus, mais auxquels on va tous s'y prêter. Que ça soit en couple, en famille, dans les organisations. J'ai rentré un petit peu plus dans le détail sur les jeux tout à l'heure, mais en tout cas, ça se termine généralement de façon plus ou moins dramatique. Ça peut être un conflit, ça peut être socialement acceptable, assez léger, même si ça nous perturbe un petit peu, mais ça peut être l'issue peut en être plus ou moins dramatique. Et vraiment, l'analyse transactionnelle, vraiment le cœur de l'analyse transactionnelle, c'est autour de l'étude des jeux. Et donc, nous jouons à défaut de mieux. Et nous jouons potentiellement aussi parce que nous n'avons pas eu suffisamment les bons signes de reconnaissance. Donc on va les chercher tout plutôt que rien. On va les chercher de cette façon-là. Si je vous dis, par exemple, le besoin de structure, si on prend un peu de recul par rapport à cette session, pour ceux qui étaient là au démarrage, ils ont pu observer. J'ai mis un certain temps à dire bonjour. J'ai commencé même presque par mon dernier étage où j'ai partagé de la musique. Je vous ai invité dans mon intimité. J'ai fait un petit peu les choses à l'envers pour voir un petit peu dans quelle mesure ça vous perturbe. Vous arrivez dans une pièce, il y a un concert, là, qu'est-ce qui se passe ? Après, je vous montre une photo d'album avec une pochette un petit peu osée, un petit peu intime d'une certaine façon. Ça peut vous perturber et puis surtout, je mets un certain temps à dire bonjour. Même si je n'ai pas pu m'en empêcher quand j'en ai vu quelques-uns entrer, ça revient spontanément parce que je suis bien élevé. Donc voilà, de la même façon, pendant cette conférence, vous avez pu, et c'est tout à fait votre droit, d'être en retrait. Vous êtes déconnecté, vous êtes sorti, même si vous n'êtes pas sorti physiquement. Et moi, j'en ai pleinement conscience et il n'y a aucun jugement. C'est votre besoin, vous répondez également à votre besoin. Donc le rituel, le bonjour, le passe-temps, on n'a pas trop eu. Et je ne vous ai pas donné l'occasion de jouer. Mais si vous aviez voulu jouer avec moi, vous auriez pu commencer un petit tir, me poser des questions un petit peu sur mes compétences. Hélas, est-ce que tu es sûr que tu as dit vraiment ce qu'il fallait, etc. Et du coup, commence à me gratter ou faire des sous-entendus. Et moi, si je ne maîtrise pas ça, ce qui se passe au fond de moi, si je n'ai pas conscience que moi, j'ai ce besoin de reconnaissance sur mes compétences et que là, on est en train de me les challenger, ça peut me faire rentrer en pilote automatique dans un jeu. Et justement, on va détailler un petit peu plus les jeux. Je suis sûr que vous en connaissez quelques-uns. Mais pourquoi jeu en fait? Les jeux n'impliquent pas nécessairement la notion de réjouissance. Par contre, il y a cette idée de partenaire de jeu. On ne joue pas si on n'a pas de partenaire. Parfois, vous allez lancer, vous allez chercher, je vais jouer, mais ça accroche et des fois, ça accroche pas. Et du coup, quand on fait son casting, quand on cherche un petit peu, tiens, là, je pense que je pourrais jouer. Évidemment, tout ça, c'est inconscient, mais au fond de nous, c'est parce qu'on recherche des signes de reconnaissance. Et du coup, les jeux nécessitent un partenaire de jeu. Au fond de nous, s'ils sont inconscients, plus ou malhonnêtes, basés sur ce qu'on appelle en analyse transactionnelle, il y a des transactions, vous avez peut-être entendu parler, sur les états du moi, adultes, parents, enfants, des transactions à ces niveaux, des transactions complémentaires, etc. Donc là, on est dans comme des transactions cachées, vraiment basées sur des sous-entendus, et du coup, qui ne s'apparentent pas à de la manipulation, parce qu'on n'en a pas conscience qu'on est en train de le faire, mais pour le coup, on est en train de le faire. Et l'issue peut être plus ou moins dramatique. Vous avez entendu parler du triangle dramatique de Cartman. Le drame, au mieux, c'est un malaise, ça se passe pas très bien, et après, chacun rentre dans son coin. Mais malheureusement, des jeux, s'ils ne sont pas traités à temps, ça peut très mal se terminer. Ils peuvent expliquer pourquoi des personnes se mettent, à défaut de trouver les mots, à se taper dessus, et ça peut effectivement très très mal se terminer. Donc, pourquoi on joue? Encore une fois, parce que les jeux sont extrêmement riches en signes de reconnaissance. Il y a de l'énergie. Dans un jeu, il y a une bonne engueulade, par exemple. C'est stimulant, ça me stimule. En même temps, tu réagis, tu es mon partenaire de jeu, tu me reconnais. Et du coup, il y a une forme de joute verbale qui peut être un petit peu excitant d'une certaine façon, malgré tout. Et les jeux correspondent également, vont satisfaire notre besoin de structure. Car comme on va le voir, les jeux sont inconscients, mais sont extrêmement structurés. Et enfin, voilà, je vous dis, ils nourrissent nos trois besoins. Et les fonctions stabilisatrices, là, c'est si vous allez chercher un petit peu au niveau de Klaus Steiner, on a tous, d'une certaine façon, on a nos scénarios de vie, mais on a aussi nos scénarios d'échecs. Et les jeux nous auto-alimentent de manière systémique dans notre scénario d'échecs. On a tous notre façon, notre scénario d'échecs. Moi, mon scénario d'échecs en tant qu'avec une base analyseur, c'est est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis suffisamment prêt, qui va m'amener à faire de la surqualité, qui va m'amener parfois à ne jamais me lancer, qui va m'amener à stresser, à rater ma conférence, ce genre de choses. Du coup, la structure d'un jeu, telle que proposée par l'analyse transactionnelle, il y a des sous-entendus. Un premier partenaire de jeu qui va lancer quelques petites phrases qui peuvent sembler anodines, mais par leur répétition, qui peuvent activer un point faible chez l'autre partenaire. Par point faible, je veux dire quelque chose qui va nous faire réagir immédiatement, un sentiment de honte, un sentiment de culpabilité qu'on a au fond de moi. Moi, je sais très bien que ce sentiment de culpabilité, il est très fort chez moi. Et quand on vient me gratter là-dessus, je peux réagir. Je pouvais en tout cas, maintenant que j'en suis conscient, j'essaie de me maîtriser un peu mieux. Et du coup, va s'enchaîner une série d'échanges, de transactions, de réactions. Et au bout d'un certain temps, on sent que ça monte, on sent qu'il se passe quelque chose, mais on se sent aussi poussé pour aller, pour continuer, parce qu'on est pris dans le jeu. Coup de théâtre, patatras, grand moment de stimulation, ça ne se passe pas du tout comme prévu, ou ça se passe comme prévu, mais de toute façon, j'ai le sentiment que j'étais complètement impuissant. Et les deux personnes ressortent avec ce sentiment, un malaise, un sentiment parasite, de la confusion. On regrette, mais en même temps, on est rentrés tous les deux dedans. Je vais vous donner un exemple. Un appât, vous entendez ? Une personne, partenaire 1, qu'on va appeler au hasard victime. Je n'y arriverai jamais. C'est pas possible. C'est toujours sur moi que ça tombe. On m'en veut, etc., etc. En face, une personne qui n'a qu'une envie, c'est d'aider les autres. Quand j'aide les autres, c'est super parce que j'aide les autres. Je ne m'aide pas moi-même, je ne regarde pas mes problèmes, je regarde ceux des autres et les problèmes des autres sont forcément plus intéressants que les miens. Donc j'ai envie d'aider. Et donc, en bon sauveur, je vais réagir. Est-ce que tu as essayé ceci? Oui, mais... Si ça rappelle quelque chose à ceux qui étaient ce matin à la conférence de Kervin, est-ce que tu as essayé cela? Oui, mais... Et puis, ça peut durer un certain temps. Et donc, cette conversation, voilà, les transactions complémentaires qui s'auto-alimentent les unes après les autres, au bout d'un moment, d'un côté ou de l'autre, le coup de théâtre, il va se passer quelque chose. Mais de toute façon, tu ne peux pas me comprendre. Ou alors l'autre personne, mais j'essaye seulement de t'aider, quoi. Enfin, franchement, coup de théâtre, les deux personnes ressortent avec un sentiment désagréable, mais ont vécu quand même quelque chose d'assez fort qui les a nourris. Et aimer aussi avec ce sentiment au fond d'eux qui vont renforcer leurs croyances. Et ce sentiment, qu'ils vont le dire ou pas, mais de toute façon, mais pourquoi je t'ai rien demandé. Je me suis mis en posture de victime, mais je t'ai rien demandé. Pourquoi tu m'aides? Ou de l'autre personne, de toute façon, débrouille-toi, quoi. Moi, j'ai fait de mon mieux. Et dans ces deux cas, on a renforcé nos croyances. Une personne qui avait ce scénario au fond d'elle et ses croyances bien ancrées qu'on ne peut compter que sur soi-même. Et l'autre personne qui va être dans son scénario, au contraire, à se dire mais quel incapable. Donc voilà un peu cette structure de jeu. Je pense que certains, avec les mots que j'ai employés, vont reconnaître quel est ce jeu qui est le plus connu. Est-ce que vous en avez entendu parler? J'ai évoqué un caractère dramatique, j'ai employé quelques mots, victime, sauveur. Voilà, le triangle dramatique de Cartman, où là, on a commencé en victime, sauveur, on arrive en persécuteur, avec une inversion de rôle, la victime peut devenir persécuteur. Donc c'est vraiment le grand classique, mais qui est toujours très intéressant à analyser, parce qu'au final, on peut le vivre quasiment tous les jours, sous plein de formes. Et ce qui est intéressant dans les jeux, c'est qu'il y a plein de variantes, il y a plein d'amorces, on va rentrer dedans. Donc vous allez entendre des amorces du type « pauvre de moi ». C'est ça que j'aime beaucoup dans le livre « Des jeux et des hommes » d'Eric Berne. Les jeux, ils les amènent de manière un petit peu ironique, avec des titres que je trouve assez... bon. Il y a le pauvre de moi, il y a jambe de bois, donc il y a oui mais, il y a un certain nombre comme ça. Pourquoi est-ce que vous ne... Donc là, on est dans le conseil, dans l'envie de sauver à tout prix, à ta place je. Et à la fin, une forme de persécution, c'est aussi on peut entrer dans le triangle par n'importe quelle porte en fait. On peut entrer par la porte du persécuteur qui va créer une victime, un sauveur, on peut entrer par la porte du sauveur, donc la porte de la victime qui va appeler un sauveur et un persécuteur, et tout ça, ça s'auto-alimente. Et le drame survient lorsqu'il y a un changement de rôle. Au début, j'étais victime, toi tu étais sauveur, tu me donnes des conseils, et puis au bout d'un moment, le sauveur en a un petit peu marre, et il devient persécuteur, et c'est ça, ce coup de théâtre, qui va mettre fin en fait, à l'échange et laisser les deux personnes sur quelque chose de désagréable, mais on peut rentrer dans le triangle par toutes les portes. Et voici voilà, des façons d'entrer en tout cas dans les portes. Je surveille un petit peu l'heure, ouais. Donc voilà en tout cas des éléments que je voulais vous partager. Les jeux, ça amène généralement à des conflits. Donc si vous avez des conflits dans vos équipes, ça peut être une grille de lecture. Quand vous entrez en conflit également, et vous dire comment sortir des jeux, comment empêcher les jeux. Il n'y a pas de solution miracle. Moi, ce que j'aime bien en tout cas, d'ailleurs, ce que Klaus Steiner propose, déjà si vous êtes en connaissance autour de vos propres besoins, vous serez plus à même d'éviter de rentrer dans une relation de sauveur, d'entrer dans une relation pour essayer de sauver les autres. Cherchez déjà... et comment, c'est une fois que vous connaissez, comme je vous l'ai dit, vous avez cette notion de point faible, vous avez vos besoins, vous savez quelle est votre porte d'entrée dans les jeux. Et moi, je sens parfois, quand là, on est en train de me titiller sur mon sentiment de honte, de culpabilité, de quelque chose, je ne rentre pas dedans parce que après, j'auto-alimente le jeu et de toute façon, c'est négatif pour tout le monde. Et de la même façon, quand vous commencez à connaître les autres, vous savez qu'il y a certains endroits où ça peut les gratter un petit peu plus. Ne cherchez pas à tout prix à appuyer sur ces endroits-là, parce que de toute façon, le jeu, ce sera quelque chose de négatif pour tout le monde. Donc voilà, en conclusion, se connaître, mes besoins en signe de reconnaissance, mes points d'entrée, quels sont-ils dans les jeux? Ça peut être en lien avec mes questions existentielles que je vous ai parlé. Comment, à défaut d'éviter... C'est très difficile d'éviter les jeux, d'essayer de les limiter. Donc prendre conscience qu'ils existent, hein, prendre conscience, ce qu'on appelle parfois la métaposition, vous prenez du recul sur ce qui vous arrive, je mets en pause la conversation, j'observe, oh là, je suis peut-être en train d'entrer dans un jeu, je redescends, et là j'oriente un petit peu pour éviter de rentrer dedans. Donc soyez à l'écoute de vos ressentis, de votre boussole intérieure, de vos émotions, de vos besoins. Et moi, le truc, quand je sens qu'un jeu vient, en équipe ou avec n'importe qui, la CNV, ok, là il se passe quelque chose, de quoi as-tu besoin? Pour moi, c'est ma meilleure façon de désamorcer les jeux, même si ce n'est pas simple pour quelqu'un d'exprimer son besoin. Il y a un début de jeu, c'est qu'il y a un besoin. Il y a quelque chose qui est derrière. Est-ce que tu attends quelque chose de moi? Je t'entends, tu te plains, tu es dans la complainte pour X raisons. Est-ce que tu attends quelque chose de moi? Est-ce que tu attends que je vienne te conseiller ou pas? Ou est-ce que tu attends juste de l'écoute? Et déjà, de l'écoute, c'est pas mal, parce qu'on n'en a pas forcément tous les jours. Et elle a besoin, elle avait besoin, cette personne avait besoin, une fois qu'elle était écoutée, ça va déjà mieux. Mais elle n'avait pas besoin de conseils, en fait. Donc voilà, apprenez à vous nourrir, à nourrir vos besoins. Pensez, voilà, ces strokes, l'appétit, les faims, le feedback, donc va nourrir. Et puis un grand merci encore une fois donc à ces ouvrages très inspirants pour moi que je peux vous conseiller. Là, on est vraiment sur la notion de structure, la théorie organisationnelle de Berne. Ici, sur de la process communication, comment je me connais, comment j'adapte ma communication aux besoins des autres. Donc, c'est aussi fortement lié à l'analyse transactionnelle. L'élément humain, c'est une autre école, mais que j'ai trouvé super intéressante pour travailler notamment sur sa propre estime de soi. Et voilà, d'autres ouvrages voilà, que je vous ai partagés. Je voulais également voilà, dire merci à ce groupe de rock qui a bercé ma jeunesse et que je ne savais pas, en tout cas que je reparlerai aujourd'hui, mais en tout cas moi qui m'apporte beaucoup en termes sur mes besoins de stimulation. Quand ça ne va pas très bien, les strokes, blam, ça va beaucoup mieux. Donc, et puis merci également. Voilà, j'y avais une conférence, la dernière Agile Tour Rennes. Donc moi je viens de Rennes, j'ai fait partie de l'Orgapa cette année, mais en tout cas j'ai trouvé intéressant cette conférence aussi autour de la reconnaissance en tant que valeur agile. J'espère que vous avez pu faire le lien un petit peu avec ce que j'ai dit par rapport à l'agilité, les interactions. Moi j'ai cette croyance forte qu'il y a plein d'outils, plein de méthodes, mais que de toute façon, c'est de la mécanique tout ça, lire des livres, appliquer des méthodes, et que si déjà vous travaillez sur l'humain, sur ses besoins, sur votre compréhension, sur la compréhension des autres, sur les interactions, tout le reste après, c'est plus facile quoi. Ça, pour moi, ça déroule quoi. Donc voilà pour cette session. Et puis si vous avez des questions, tout ce que dans le temps qui nous reste, et puis tout type de feedback est bon à prendre également, que ce soit sur la porte ou maintenant, comme vous le sentez.